Le journal Jacques Matonde d'IMB. Bonsoir Jacques Matonde.
Bonsoir Karine Galimbaya, bonsoir à tous depuis le studio Jérôme Gongo de Radio Capi. Tout de suite la une de l'actualité. Quatre anciens chefs d'État africains sont depuis ce matin à Kinshasa. Objectif de leur mission, contribuer à l'aboutissement apaisé de la transition en RDC. À la une aussi, les démobilités des Bassankou sous province de l'Équateur en colère contre la CONADER et la FAO. C'est là suite à la lenteur observée dans l'exécution de leur projet de réinsertion socio-économique. Des stratégies arrêtées par des superviseurs nationaux du programme élargi des vaccinations. Pour les prochaines journées des vaccinations, du 8 au 12 de ce mois, près de 3 millions d'enfants dans le Bandundu seront vaccinés contre la polio et la rougeole. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, la nouvelle initiative Afrique de paix en RDC. Quatre anciens chefs d'État africains sont depuis ce matin à Kinshasa. Le général Abdoul Salami Abubakar du Nigeria, Pierre Bouyoya du Burundi, Sam Mujoma de la Namibie et Gary Rowling, ancien président du Ghana. Ils ont été accueillis à l'aéroport de Ndjili par trois proches du président Joseph Kabila, dont son directeur de cabinet Chioki Tundu et le patron de la MONUC William Lassiswing. Les quatre anciens chefs d'État disaient être venu dans le cadre du suivi du Forum des anciens chefs d'État africains, forum tenu récemment en Afrique du Sud, objet de leur mission en RDC, contribuer à l'aboutissement apaisé de la transition. On écoute le doyen de cette délégation, l'ancien président du Nigeria, le général Abdoul Salami Abubakar, au micro de Jean-Claude Toumba Kamanga.
Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité à tout le peuple congolais pour le maintien de la paix dans ce pays. Nous apportons aussi un grand message, à savoir que toute l'Afrique soutient tout le peuple congolais afin que la paix soit maintenue en RDC et que ce pays poursuive son progrès. À ce propos, je confirme que nous allons rencontrer le président Kabila et son concurrent, ainsi que d'autres associations impliquées dans le maintien de la paix. Nous voulons donc nous assurer du maintien de la paix, mais aussi que le peuple va accepter les résultats des élections pour une bonne issue de ces scrutins.
Pour sa part, le directeur de cabinet de Joseph Kabila, Chioki Tundu, a dit que la présidence de la République compte sur ce message de paix pour notamment faire accepter les résultats par les deux candidats du second tour de la présidentielle. Au Kasaï occidental, vive tension hier jeudi dans le territoire de Dékissé, à 470 km au nord de Kananga. Des jeunes gens armés, des flèches et machettes ont pris d'assaut le bureau relais de la CEI de ce territoire et emporté les plis des deux centres de vote. Ils ont ensuite érigé les barrières sur les routes du Nord pour empêcher l'acheminement des plis électoraux en provenance de quatre autres centres. Situation qui inquiète les chefs de bureau de liaison de Moka qui contrôle ce territoire de Dékissé. Omer Tchibala, chef de bureau de liaison, est joint au téléphone par Basile Bakumbane.
Qui est logisticien numéro 2 à Dékissé, il a fait état de disparition de deux plis. Les jeunes gens armés de flèches et de machettes sont descendus dans notre bureau de relais. Ils ont menacé et ils ont emporté deux plis, 95-24 et 95-33. Ils ont fui avec ces plis en brousse. La police n'était pas équipée. On a passé pour suivre les assaillants qui ont pris la fuite en brousse. Ce sont les partisans du candidat numéro 3, M. Bassa, qui étaient mécontents des résultats qui ont été affichés dans le centre du Nord. Il a monté une milice de ses sympathisants qui ont monté une barricade pour empêcher le CCV d'acheminer les plis au centre de Dékissé. Et son village est situé le long de la route qui sépare la cité de Dékissé et le nord, là où se trouvent quatre centres. Alors, en demandant à la RFI, on peut intervenir avec policiers bien armés pour nous permettre de récupérer les plis qui sont restés. Il nous reste encore 9 centres à récupérer.
Saisie de la situation, la MONUC Kananga a disponibilisé ce matin 2 hélicoptères qui ont transporté des éléments de la police nationale congolaise. Ceux-ci auront pour mission de dissuader les fauteurs de troubles à Dékissé et faciliter l'acheminement des plis vers les bureaux relais. Autre incident ce matin entre la 10e région militaire et Anselme Enerunga, ancien ministre de l'Environnement à Bukavu, province du Sud Kivu. Anselme Enerunga a été bloqué par des militaires FARDC de cette région alors qu'il tentait de quitter cette ville de Bukavu pour se rendre à Goma. Selon la 10e région militaire, le directeur de campagne du MLC doit remettre sa garde rapprochée au commandement région militaire avant de quitter la province. Les détails, Ewing Salumu.
C'est aux alentours de 7 heures ce matin que le bus à bord duquel voyageait Anselme Nerunga a été stoppé place de l'Indépendance. L'ancien ministre de l'Environnement voyageait avec 3 militaires de sa garde rapprochée à bord d'un bus de transport en commun en direction de Goma. Une quinzaine de FARDC a entouré le bus et lui a demandé de se présenter à la 10e région militaire. Et Nerunga a tout simplement refusé. Selon la 10e région militaire, il n'est plus ministre et donc n'a plus les droits à des gardes du corps FARDC. Et lui a donc demandé de laisser ses militaires à Bukavu, car ils n'ont pas d'effet de route. Quant à Anselme Nerunga, il n'a pas souhaité s'expliquer. Ce n'est qu'après l'intervention du commandant second de la 10e région militaire qu'une solution a été trouvée. Anselme Nerunga a dû signer une décharge pour 3 gardes du corps. Il est ensuite reparti à bord de sa Jeep, accompagné d'une escorte PNC. Rappelons qu'il y a 2 semaines, la 10e région militaire avait déjà repris 5 militaires de sa garde rapprochée venus à Bukavu sans aucune feu de route. Bukavu, Ewinga Metsalumu, Radio Kapi.
Toujours dans cette province du Sud Kivu, 7 présumés combattants hutus rwandais ont été tués lors des affrontements à Nyabibwe avec des militaires FRDC. Cela s'est passé dans la nuit de mercredi à ce jeudi à une centaine de kilomètres au nord de Bukavu. Selon l'administrateur assistant résident de Kalehe, les FRDC ont attaqué un groupe de FRDLR par surprise alors qu'ils s'apprêtaient à piller un village près de Nyabibwe. Un militaire FRDC a été blessé dans l'affrontement. On écoute Séraphin Kachali, administrateur assistant résident de Nyamibwe, au micro de Jean Kassami.
C'était mercredi soir que nous avons appris que les interahams sont cantonnés à 2 km vers le haut plateau et qu'ils avaient l'envie de défendre pour piller à Nyabibwe. C'est après que les militaires de Nyabibwe, les batailles dirigées par le major Mulonga, ils sont montés et arrivés là, ils ont mis en brandade. Là, ils ont tué 7 lignes et ils ont récupéré quelques armes. Et de la part de la FARDC, il y a eu un seul blessé. Et la FARDC sont montés vers Sambombo, côté Viral, en train de fuir.
Il est 18h07 à Kinshasa et l'actualité se poursuit dans la province de l'Équateur. Après la menace de démobiliser, de semer l'insécurité à Bassankoussou, si une solution n'est pas trouvée à leurs revendications, l'évêque de Bassankoussou dans cette province de l'Équateur et un député national présent au chef-lieu du district de l'Ituri ont offert leurs bons offices. Ils ont négocié avec une délégation de démobilisés en sit-in devant l'hôtel où est logée la délégation de la MONUC en mission pour la supervision des élections à Bassankoussou. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Écoutons Monseigneur Mokobe Njoku, évêque du diocèse de Bassankoussou, joint au téléphone par Dominique Wolombi.
La première chose, c'est que tu stigmatises les fausses promesses dont ils sont victimes. Après 12 mois, on leur avait promis de gagner chaque mois 25$. Et après ça, pour que chacun puisse regagner là où il veut bien aller et s'occuper de la manière qu'il choisit lui-même. Malheureusement, 3 mois se sont passés, ces 300$ ne sont toujours pas là. Ils ont même dit d'ici une semaine que les responsables qui leur ont fait cette promesse veuillent bien s'acquitter de leurs promesses pour qu'ils puissent survivre. Ils craignent également que, après les élections, les autorités qui vont prendre leurs responsabilités, leurs promesses tombent caduques. Nous avons essayé de leur faire comprendre que nous avons sensibilisé un peu partout. La MONUC a sensibilisé Kinshasa pour qu'on essaie d'intervenir. Nous souhaitons vivement que la question puisse quand même se régler le plus tôt possible.
Vous écoutez Radio Kapi. Jusqu'ici à présent, une année s'est écoulée depuis l'assassinat du journaliste Franck Ngike de la Référence Plus, ainsi que de son épouse. Le procès tire en longueur. Maître Kabongo, avocat de la famille des victimes, affirme que la lenteur observée dans l'évolution du dossier est due au fait que les tribunaux chargés de suivre ce dossier avaient été amenés à trouver d'autres avocats pour les présumés assassins, car le collectif d'avocats qui les défendait et qui était allé en appel ne s'était pas présenté à l'audience le jour de l'instruction devant les juges. Écoutons Maître Godefroy Kabongo, joint au téléphone par Aimé Nseya.
Le collectif d'avocats qui défendait les prévenus a estimé qu'il fallait aller en appel contre ces jugements. Le jugement a été rendu au mois de septembre. Les confrères qui intervenaient pour les prévenus, à l'audience où on devait entamer l'instruction sur le fond, ils ne se sont pas présentés pour des motifs qui leur sont propres. À ma connaissance, il y a d'autres avocats qui sont maintenant désignés pour assister les prévenus, mais ces avocats ont dit qu'ils doivent avoir un peu de temps pour étudier les dossiers. C'est vrai que je suis d'avis avec vous que ça prend du temps, mais c'est vrai aussi que les prévenus ont droit d'être assistés par des avocats qui ont lu les dossiers. Bon, maintenant, combien de temps vont-ils prendre? Mais je pense que le mercredi prochain, si tout va bien, il pourrait y avoir audience.
Quittons la justice pour parler santé à présent. Près de 3 millions d'enfants dans le Bandundu seront vaccinés contre la polio et la rougeole du 8 au 12 novembre prochain. Des superviseurs nationaux du programme élargi des vaccinations venus de Kinshasa ont échangé hier jeudi avec ceux de la province de Bandundu sur les stratégies à appliquer au cours de ces journées. Ce programme est organisé par le PEV et ses partenaires. Depuis Kikwit, une correspondance de Rebecca Ibalinguma.
La rencontre a tourné autour des préparatifs des 5 journées de vaccination prévues du 8 au 12 novembre prochain dans toutes les 52 zones de santé de la province de Bandundu. Au total, 3 106 675 enfants âgés de 6 mois à 15 ans attendent la vaccination anti-poliomyélite. Des enfants qui se trouvent dans les zones de santé de Kenge, Inongo, Kikwit et la ville de Bandundu. Et la vaccination anti-rougeole se fera dans les secteurs de Kenge et Kikwit. Toutes ces vaccinations connaîtront l'addition de la vitamine A et des mébendazole pour lutter contre les vers chez les enfants. Selon M. Patrick Mbwebwe, logisticien à l'Organisation mondiale de la santé Antenne Kikwit, tous les matériels ont déjà été envoyés dans les différentes zones de santé précitées. Signalons enfin que cette rencontre a réuni plusieurs programmes nationaux de la santé ainsi que ses partenaires, à savoir les programmes nationaux de nutrition Pronanit en sigle, les programmes élargis de vaccination PEV en sigle, les ministères de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé ainsi que l'UNICEF. Depuis la ville de Kikwit dans la province de Bandundu, Rebecca Ebalenguma, Radio Kapi.
Direction province de Bakongo, après les élections du 29 octobre dernier, les bureaux de vote sont redevenus de salles des classes et les cours ont repris. À Manzi, un village situé à des dizaines de kilomètres de la cité de Inga, dans cette province, des enfants de moins de 6 ans sont obligés de parcourir près de 30 kilomètres à pied pour se rendre à l'école. Mireille Bukassa a accompagné un de ses élèves suivant son reportage.
Lenny Matondo a 5 ans, elle est en première année primaire. Une petite bouteille d'eau sur la tête, elle est en route pour l'école. Elle est obligée de se lever tous les jours à 5 heures du matin pour aller suivre les cours. Après plus ou moins 3 heures de marche, elle y est. L'école commence à 7h10, Lenny est en retard de plus d'une heure. C'est parce qu'elle a parcouru plus de 25 km à pied, comme si cela n'était pas suffisant. 4 chevrons sur lesquels est suspendue une toiture en paille sert de classe à la petite Lenny. Toute trempée par la sueur, elle prend place sur une brique parce qu'il n'y a aucun banc dans ce qui lui sert de salle de classe. Quand il pleut, Lenny et ses camarades arrêtent les cours pour aller s'abriter. Aucun mur pour la protéger des intempéries. À la question de savoir ce que Lenny Matondo espère du futur président de la RDC, d'une petite voix qui exprime la fatigue, Lenny répond « Je souhaite juste qu'il construise pour moi une école non loin de l'endroit où j'habite. » De la cité d'Inga, dans le Bas-Congo, Mireille Bukassa, Radio Kapi.
Rendons-nous dans la province du Sud Kivu de nouveau à Uvira, une vingtaine de familles sans abri après les pluies diluviennes qui se sont abattues cette semaine sur la cité. Vers 2h ce matin, plusieurs familles du quartier Nyamianda ont dû évacuer leur maison après que la rivière Kalimambenge soit sortie de son lit. Les habitants du quartier ont dû quitter précipitamment leur maison par crainte de voir celle-ci s'écrouler. La plupart sont construites en briques de terre non cuites. Économie, la dépréciation du franc congolais est à la base de la hausse des prix des produits constatés actuellement sur le marché, précise Moïse Nyarugabo, ministre de l'économie. Il évoque un certain nombre de facteurs qui, selon lui, expliquent la hausse des prix du ciment, de la bière et d'autres produits de première nécessité. Moïse Nyarugabo, ministre de l'économie, est au micro de Guy Maté.
Il faut dire que la seule société qui produit du ciment, c'est la Silou. Elle exporte une quantité, mais elle explique que l'exportation lui permet d'avoir des devises et ce sont ces devises qu'elle utilise pour avoir les matières premières. Une des propositions en matière de ciment, c'est soit qu'on arrête l'exportation, c'est soit qu'on autorise l'importation. Si on autorise l'importation pour une période donnée et pour une quantité déterminée, il est possible qu'on puisse encore avoir beaucoup de produits sur le marché et ça va mettre fin à la spéculation et ça peut aider à équilibrer et stabiliser le prix de ciment. Pour ce produit, il y a des solutions en vue, nous sommes en train de finaliser parce que nous devons aussi nous rassurer que nous ne sommes pas en train de tuer l'industrie. industries locales que nous devons plutôt protéger. C'est pour cela que nous devons discuter avec ces industries ou cette industrie avant de prendre des mesures que nous sommes en train de préconiser, mais qui vont être prises dans un très bref délai.
Avant de boucler cette édition, nous venons de l'apprendre depuis quelques minutes, la télévision CCTV et Canal Kin TV émettent de nouveau. C'est la société de maintenance italienne Téléconsult qui vient de remplacer la carte logique de l'émetteur de Canal Kin ainsi que les modulateurs basse bande du faisceau de la télévision CCTV tombé en panne depuis le 28 octobre dernier. Ces travaux de dépannage se sont effectués en présence de la MONUC. C'est la fin de ce journal. Retrouvez-le sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Excellente condition d'écoute à tous et à toutes. Okapi, Okapi.